Idées reçues sur les énergies renouvelables avec Jean-Yves Grandidier, Iban Lissarald et Paul No.
Aujourd'hui, donc avec nos trois invités, on va parler des idées reçues sur les énergies renouvelables. On entend souvent beaucoup de choses sur le sujet. Il y a du vrai, il y a du faux. Aujourd'hui, le but, ça va être un peu de démêler le vrai du faux avec nos trois intervenants ici présents. Donc Paul No, qui est ingénieur et fondateur d'Adies, un bureau d'études en énergie renouvelable, également auteur du guide de référence sur l'éolien et membre de l'association Gigawatt. À sa droite, on a Jean-Yves Grandidier, qui est président de Valorem, donc créé en 1994 par vous-même, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Valorem, vous devez être, je ne pense pas avoir besoin de le préciser. Et Iban Bald, qui est cofondateur de INR, cofondateur récemment d'Enarga, vous avez pu voir dans le village. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Bonjour.
Oui, juste un petit appel à une personne qui a fait une dame de Clermont-Ferrand, qui a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie renouvelable qui se développait dans sa région. Ma société vient de lancer une opération d'investissement participatif pour un projet photovoltaique de 5 MW à Clermont-Ferrand, enfin, il y a quelques semaines. On a besoin de mobiliser à peu près 400 000 euros. Aujourd'hui, on arrive à dépasser très peu les 100 000 euros. On a du mal. Donc, si quelqu'un connaît cette personne-là, je lance un appel pour la retrouver et voir comment on peut arriver à avec des gens du coin. Parce que c'est de l'investissement local. Obligatoirement, ça peut être que sur le département du Puy-de-Dôme et des départements voisins. Hein. C'est les règles de la commission de régulation de l'énergie qui utilisent un peu ça. Et c'est des très bonnes règles d'ailleurs de ce point de vue-là. Et du coup, ce n'est pas complètement facile toujours de mobiliser autant les gens, les acteurs locaux. Mais il y a potentiellement des productions d'énergie nouvelle qui peuvent se faire dans le Puy-de-Dôme.
Le déroulement de la table ronde va se faire de la façon suivante. Dans un premier temps, on va aborder un peu les idées reçues les plus souvent entendues et on va pouvoir avoir les réactions de nos trois intervenants là-dessus. Et ensuite, dans un deuxième temps, on vous laissera la parole pour que vous aussi, vous puissiez challenger nos intervenants sur ces idées reçues qu'on entend souvent. On va commencer tout de suite. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est que les énergies renouvelables coûtent trop cher. C'est-à-dire que pour le consommateur, ça augmente la facture. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement et qui est un frein au développement des énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce que c'est que vous entendez le plus souvent sur le sujet? Je vais peut-être laisser la parole à M. Lissarald d'abord.
Bonjour. Ça coûte plus cher. Il y a différentes façons de répondre à ces questions. C'est peut-être les premières. La première façon, ça serait de prendre les calculs habituels qu'on fait ou qui fait un économiste. Donc effectivement, non, on a des documents. On sait qu'on calcule une installation d'énergie renouvelable par rapport au coût de l'investissement, ensuite les coûts d'exploitation, mais ça vaut pour tout type d'énergie. Donc il y a différentes agences et différentes études qui ont été réalisées dans ce sens. Et donc je pourrais aujourd'hui effectivement faire un état de l'art de tous ces documents, vous ramener ici et vous dire. Voilà, l'énergie solaire coûte X euros le mégawattheure, l'énergie éolienne autant, si on veut produire l'électricité avec le charbon, c'est autant, le nucléaire, c'est autant. Voilà. Donc effectivement, je pourrais faire un état de l'art et vous répondre à ces questions en disant, voilà, c'est comme ça. Et les tendances sont, on entend de plus en plus, le solaire par exemple, et la tendance, c'est que les prix, c'est de plus en plus compétent. Alors, en France, c'est vrai qu'en France, il y a un mythe, en tout cas, il y a le mythe des années 70-80, que l'énergie nucléaire, c'est pas cher. Bon, quand on sort de la France, on se rend compte bien que, voilà, c'est une spécificité de la France. Ailleurs, on considère l'énergie nucléaire comme très chère. Et je pense que depuis Fukushima, en France aussi, il y a plusieurs études qui vont plutôt dans ce sens. Et je ne vous parle pas des études de Greenpeace ou non, ça peut être, vous pouvez prendre des rapports de la Cour des comptes qui montrent, qui essayent de calculer. les prix, si par exemple on rallonge la vie des centrales nucléaires françaises, ou si on développe les 3e, 4e, 5e génération de centrales nucléaires. Donc ça, effectivement, c'est un coût et c'est non négligeable. Donc on peut le comparer par rapport à d'autres types d'énergie. Et donc je pense qu'on est en train de sortir de ces mythes. Et donc effectivement, l'énergie nucléaire, ça coûte cher, et souvent ça coûte plus cher que les énergies renouvelables. Bon, une fois que je dis ça, et je vous présente, voilà, c'est telle énergie est plus chère. Oui, je pourrais répondre comme ça, mais en même temps, tous ces calculs se font à partir de certaines hypothèses et à partir d'un calcul sur le périmètre précis. Donc, j'ai envie de vous répondre, ou une deuxième façon de vous répondre, ça serait, est-ce que c'est vraiment plus cher? Ça dépend. Ça dépend, et ça dépend justement quelle hypothèse vous prenez et quel est le périmètre des calculs de ces prix. Donc les hypothèses, on peut prendre par rapport à l'évolution des prix des coûts de matière, ou l'évolution technologique qu'on fait, donc c'est des scénarios qu'on peut faire. Et les périmètres, ça dépend de ce que vous prenez en compte dans votre calcul. C'est quand on compte l'énergie, par exemple l'énergie nucléaire, est-ce que vous prenez en compte dans votre calcul le futur démantèlement des centrales nucléaires? Oui, non, oui, ça dépend. Si vous prenez en compte cette coût, vous allez avoir un résultat différent. Et comme ça, le périmètre, il peut avoir plusieurs périmètres, et vous allez jusqu'à... Est-ce que vous prenez en compte dans les calculs de mobiliser les militaires pour sécuriser les mines d'uranium au Niger? On peut aller très loin. Mais si vous prenez en compte tout ça, évidemment, vous allez avoir des résultats différents. Alors, tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle les externalités. Donc, dès que vous mettez un coup à des externalités, vous allez avoir des résultats différents. Alors, il y a des économistes qui s'amusent à monétiser toutes ces externalités. Monétiser, donc voilà, on met un prix, on met un coût et on rajoute dans les calculs. Et on intègre ce qui avant était externe, on l'intègre dans notre calcul. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc ça, c'est dans la deuxième réponse, ça peut être ça. On va intérioriser, on va calculer les vrais coûts de chaque énergie. Une fois qu'on a dit ça, c'est des hypothèses qui prennent les économistes. Et, ok, on va produire demain avec une centrale à charbon ici à Bayonne l'électricité, et on sait déjà qu'il y aura une augmentation des maladies de poumons, par exemple. Et on sait qu'à l'hôpital de Bayonne, il y aura un surcoût. Donc ok, bon, on intègre ça. Mais on sait aussi qu'il y aura, 2% des enfants qui mouriront. Alors les économistes, ils mettent un coût à ça. Ils prennent des hypothèses. Mais quel est le vrai coût de perdre une partie de nos enfants? Ça, c'est... On ne peut pas mettre un chiffre à ça. Donc c'est, encore une fois, c'est des hypothèses. Donc quand on intègre tous ces coûts externes, c'est encore une fois basé sur des hypothèses. Donc on peut avoir encore une autre façon de répondre à ta question. C'est est-ce qu'on a vraiment envie de traiter cette question de l'énergie en termes de coûts, en termes de rentabilité? Est-ce qu'on a envie de rester dans ce paradigme de l'économie capitaliste quand on traite les sujets de l'énergie? Mais ça vaut pour d'autres sujets aussi. Est-ce que ça a vraiment un sens de parler que l'école doit être rentable ou que l'hôpital doit être rentable? Pour l'énergie, c'est pareil. Est-ce que ça a un sens de parler que l'énergie doit être rentable? Est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme? Ça pourrait être une autre façon de répondre. Oui, mais peut-être qu'il faut changer de paradigme et dire l'énergie, c'est un bien commun, donc à nous de décider comment on gère l'énergie et à nous de décider quel type d'économie on veut utiliser pour traiter cette question de l'énergie.
Iban, tu parlais d'externalité à l'instant. Quand les premiers tarifs d'obligation d'achat ont été faits, c'est-à-dire ces tarifs, les premiers c'était en France, c'était pour l'éolien, en 2001, il y a un arrêté tarifaire, donc un arrêté tarifaire c'est quelque chose qui est proposé par le gouvernement. donc, qui nous a fixé le prix auquel EDF, ou les concessionnaires des réseaux sur lesquels nos parcs éoliens se trouvent, devraient racheter, le prix auquel devraient racheter l'électricité. Effectivement, on était à peu près à un prix de 80 euros le mégawatt-heure, un peu plus, et le prix de l'électricité de marché était à 30, 35, 40 euros hein, mégawatt-heure. Et donc, à l'époque, le différentiel, ou une partie du différentiel, il était justement pour combler les externalités dont tu parlais. Hein, tu vois, c'était déjà la logique. Hein. Il y avait 2-3 points, développement filière, externalité, effectivement, des énergies fossiles que renferment les énergies fossiles et nucléaires, et que les énergies renouvelables renferment beaucoup moins. Mais du coup, si on regarde ça d'une perspective historique, les gens disent « Ah ben, c'est les subventions. C'est les subventions. » Et donc, les énergies renouvelables coûtent plus cher que les énergies fossiles ou nucléaires parce que vous êtes subventionné. Écoutez partout, ouais, de toute façon, vous êtes subventionné. Donc, d'où cette idée que ça coûte très cher. Alors moi, je voudrais analyser ça dans deux perspectives. Je crois qu'Iban l'a bien dit, c'est compliqué. Il y a plusieurs entrées. Donc moi, je voudrais analyser ça sur deux entrées. L'aspect, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Si on parle de coût de l'énergie, et je viendrai, et j'expliquerai ce que je veux dire. Et deuxièmement, il y a un aspect historique. Il faut voir quelles sont les tendances de chaque énergie. Sur l'aspect historique, je vais vous donner un exemple concernant les prix auxquels ont été lauréats les projets photovoltaïques dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Hein. Aujourd'hui, depuis 2011-2012, pour pouvoir faire du photovoltaïque sur des installations de plus de 100 kW, on passe par des appels d'offres. Et un des critères importants pour permettre de gagner ces appels d'offres, c'est le prix auquel on propose de vendre notre électricité, donc toujours pareil au concessionnaire du réseau, avec un tarif, entre guillemets, d'obligation d'achat. Mais maintenant, c'est des appels d'offres qui permettent de gagner nos projets et de pouvoir construire ensuite nos installations. Sur le photovoltaïque au sol, sur les grands projets, en 2012, les projets pour les gagner, il faut être à peu près à 170 euros le mégawatt-heure. Un an et demi plus tard, sur le deuxième appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, il fallait être à 120 euros le mégawatt-heure. Fin 2015, les appels d'offres du troisième round de la Commission de régulation de l'énergie ont été à 80 euros le mégawatt-heure. Début 2017 jusqu'à maintenant, il y a eu les appels d'offres de Commission de régulation de l'énergie qui sont le numéro 4, il y en a eu plusieurs. On est passé du premier à 55, deuxième 55, et le troisième qui vient d'être sorti cet été, il est à 52,5. Les projets sur les parcs photovoltaïques au sol de plus de 5 MW, on est à 52,5. Voilà. Donc, ça n'arrête pas voilà, il y a encore une tendance et ça va encore baisser. Et ce prix-là, alors vous allez me dire, oui, mais c'est du... Alors là, c'est une deuxième idée reçue qu'on va profiter de... On va en profiter pour la combattre. Oui, mais c'est des panneaux chinois. Ben non. Je trouve que pour justement, dans ces cas de ces appels d'offres, on doit faire un bilan carbone. Et il y a une note liée au bilan carbone qui font que l'essentiel de la chaîne de valeur liée à la production de ces modules photovoltaïques, elle est en Europe. Et en particulier en Norvège. Parce que les premières étapes, c'est-à-dire la fonte des lingots qui consomment beaucoup d'énergie, il faut mieux la faire en Norvège où l'électricité est faite avec de l'hydraulique et donc peu émettrice de gaz à effet de serre, plutôt que de la faire en Chine où la production d'électricité est très émettrice avec leurs centrales charbon. Donc ça, c'est une première idée reçue. Les grandes centrales qui sortent d'appels d'offres en France ne viennent pas de Chine, enfin les modules ne viennent pas de Chine ou peu de Chine, ils viennent plutôt une grosse partie de la chaîne de valeur. Il peut y avoir quelques parties qui se font en Chine ou à Taïwan, mais les parties consommatrices, en particulier le début de la chaîne de valeur, sont faites en Europe. Voilà, donc voilà, on voit quand même que, où est-ce qu'on va aller avec le photovoltaïque à 35, 40 euros. Sur l'éolien, aujourd'hui, on est à 65 euros. Le mégawatt-heure, c'est les derniers appels d'offres qui sont sortis. On peut faire mieux. Alors l'éolien, c'est très variable. En fait, sur le photovoltaïque, que je sois dans le nord de la France ou dans le sud, j'ai un différentiel de 4-5 euros par mégawatt-heure. Quand je vous disais 52 l'année dernière, ça c'est dans le sud de la France. sud-ouest, sud-est, on peut mettre encore un peu meilleur. Et puis quand on va, nous là on est en train de construire, préparer la construction d'un projet dans l'Aube, on est à 57, on est 5 euros de plus. Sachant qu'on compense un petit peu le manque de soleil par le fait que le loyer des terrains est peut-être aussi un peu moins cher que dans le sud-est. Hein, donc. Voilà. Sur l'éolien, c'est un peu différent, il y a des disparités beaucoup plus importantes. Mais on peut aussi arriver à être... aujourd'hui, je suis en train de construire des projets en Finlande et on est à 30 euros du mégawattheure. Voilà. Alors, à comparer avec le prix de l'électricité en France qui est à 45 euros en 2017, le prix de l'électricité au spot, et avec le coût de revient du nucléaire qui, aujourd'hui, est à peu près 30 euros le mégawattheure. Le coût de revient, simplement des coûts d'opération, hein, c'est pas le coût de l'investissement. Donc effectivement, maintenant, si on ne mélange pas les torches-souchons et les serviettes, moi, mon électricité éolienne que je fais en Finlande, le coût d'opération, c'est 10 euros. Donc le reste, pour aller à 30 euros, c'est les 20 euros, c'est parce qu'il faut que je rembourse un investissement sur 20 ans ou 25 ans. Voilà. Le nucléaire à 30 euros, c'est juste les coûts de revient. Si on avait coûté le coût d'investissement, il serait beaucoup plus cher. Et on mélange torchons et serviettes. Si on fait, comme disait Iban, du grand carénage, bah, il faut rajouter qu'on amortit sur 10 ans, puisque aujourd'hui il faut l'amortir, on rajoute 40 euros aux 30 euros, donc ça fait 70. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et EDF, quand il vend ses deux centrales nucléaires avec les pontes au Royaume-Uni, il est à 93 livres les mégawattheures pendant 35 ans. Là, quand je vous parlais des prix en question, c'est 20 ans. C'est 20 ans, hein, on a des prix garantis sur 20 ans. Donc eux, ils ont effectivement, EDF va avoir un prix garanti sur 35 ans, à peu près, suivant la parité euro-livre, de 110 euros le mégawattheure pendant 35 ans. Voilà, ça c'est comparons le nucléaire neuf avec du photovoltaïque ou de l'éolien neuf, et on voit qu'à ce moment-là, et le Figaro l'a dit quand l'appel d'offres creux 4.1 est sorti, le photovoltaïque est deux fois moins cher que le nucléaire. Quoi. Donc voilà.
Je veux confirmer, parce que c'est quand même intéressant de comparer les torchons et les serviettes. Donc, quand on compare ces torchons et serviettes, donc avec du nucléaire neuf, puis avec de l'éolien et de photovoltaïque neuf, on est dans ces ratios-là. Donc, on est à plus de 100 euros le mégawattheure du nucléaire neuf. Et quand on regarde l'éolien offshore en mer neuf, on est à 50, 60 euros le mégawattheure neuf. Et là, avec l'éolien offshore, on est avec des grosses productions. On est dans le même championnat en termes de puissance installée, parce qu'une centrale éolienne en mer, c'est 500 mégawatts, c'est 1000 mégawatts. Hein. C'est là, globalement les mêmes puissances que les centrales nucléaires, et avec des productions qui sont assez constantes, qui sont par le facteur de charge, c'est peut-être une question qui reviendront après. Donc on est dans le même championnat, et dans ce même championnat, donc avec quelque part les mêmes règles du jeu, on aboutit à l'éolien offshore qui est deux fois moins cher que le nouveau nucléaire. Donc c'est ça les données du problème aujourd'hui, qui font que, et ça c'est quelque chose qui est nouveau, hein, c'est, il y a 3, 4, 5 ans, on n'aurait pas dit ça. Donc ça c'est quelque chose qui est très récent, et donc il y a un changement très important. Et si je ramène par rapport au scénario négoïde sur lequel on a travaillé, on en sort tous les 5 ans, avant les élections présidentielles, et c'est une différence qu'on a constatée sur les deux derniers scénarios, sur ces coûts des énergies renouvelables entre 5 ans, que ce soit sur le photovoltaïque ou sur l'éolien.
Merci pour ces réponses. Je vous propose de garder le micro, monsieur, parce qu'on va passer à la deuxième idée reçue sur les énergies renouvelables, qui va être un peu double et où vous êtes spécialiste. Deux choses, les énergies renouvelables sont souvent accusées d'épuiser beaucoup de ressources rares, des terres rares, on le sait, pour le photovoltaïque, pour le stockage également, et représentent également un danger pour la biodiversité. On pense notamment aux éoliennes industrielles qui peuvent avoir un impact sur les oiseaux, la migration des oiseaux, etc. Qu'avez-vous à répondre à ça?
Donc, sur les terres rares, c'est un terme qui désigne des métaux qui sont relativement rares et qui ont des propriétés intéressantes sur le plan électromagnétique. Donc, on les utilise dans les éoliennes pour certains types d'éoliennes qui ont besoin d'aimants permanents. C'est-à-dire que, pour simplifier, il y a deux types d'éoliennes. Il y a des éoliennes qui fonctionnent avec des multiplicateurs, c'est-à-dire que vous avez le rotor, qui, avec un multiplicateur, va entraîner une génératrice. Donc ça, dans ces éoliennes-là, qui sont la majorité des éoliennes, on n'a pas besoin d'aimants permanents, on n'a pas besoin donc, de terres rares. Dans des éoliennes qui sont donc en attaque directe, où là, il n'y a pas de multiplicateur, donc on a besoin d'aimants permanents, et on utilise ces terres rares. Et donc aujourd'hui, ça représente 5 ou 10% des éoliennes qui sont installées à travers le monde, donc c'est qu'une filière particulière. Il y a des alternatives techniques, hein, pour ces éléments permanents. On n'est pas obligé d'utiliser ces terres rares, parce que ces terres rares sont difficiles à exploiter, sont des mines qui ont des conséquences environnementales fortes. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose qui est indispensable dans les éoliennes. Qui plus est, c'est recyclable. Et puis là aussi, l'idée, c'est qu'il faut comparer. Hein, donc, on va dire dans l'éolien, les terres rares, mais il n'y a pas dans le nucléaire. Dans le nucléaire, il y a de l'uranium qui, lui, va être avec des mines, avec des quantités très importantes, qui va créer des problèmes sur toute sa chaîne de production et d'extraction. Et donc là, on est avec des quantités qui sont assez faibles, qui ne sont pas dans toutes les éoliennes. Alors, dans toutes les centrales nucléaires, il y a de l'uranium que l'on va recycler, et il y a des alternatives à ces éléments permanents. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur les terres rares par rapport à l'éolien. Et il n'y a pas de terres rares au sens strict, de manière massive, dans le photovoltaïque. La plupart des modules photovoltaïques sont des monocristallins, photocristallins, polycristallins. C'est du silicium, c'est le deuxième matériau le plus répandu sur Terre, donc on n'a aucun problème de ressources en la matière. Donc ces terres rares ne sont pas des tares pour le développement des énergies renouvelables électriques. C'est ce qu'on peut dire. Après, on pourra approfondir, ou mes collègues pourront préciser. Sur les impacts de l'éolien sur la biodiversité, donc ça c'est mon travail quotidien. Donc moi j'ai un bureau d'études qui travaille sur les impacts des énergies renouvelables, les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables. Donc mon premier salarié c'était un ornithologue, c'était il y a 20 ans. Et donc depuis 20 ans on étudie ces impacts-là, on les connaît, on sait comment les maîtriser, on sait comment les réduire, on a des connaissances. Et pour simplifier, si je rentre dans le détail pour les oiseaux, il y a deux types d'impacts. Il y a des oiseaux qui sont effarouchés par les éoliennes, donc ils ne vont pas s'approcher des éoliennes et donc ils ne vont pas être impactés en termes de collision. Puis il y a d'autres qui ne sont pas effarouchés par les éoliennes, qui peuvent rentrer en collision. Donc on regarde ces deux aspects. Et si on le regarde de manière globale, on est avec des mortalités qui sont accidentelles, parce que les oiseaux voient les éoliennes, les évitent. Donc, dans certaines circonstances, il y a des accidents comme partout, mais on n'est pas avec des hachoirs à oiseaux, on n'est pas dans ces configurations-là, on a des mortalités qui sont faibles. Et si on cite des chiffres, les chiffres c'est toujours un peu plus parlant, même si on ne peut pas mélanger une alouette et puis un vautour fauve, mais l'impact d'une éolienne, ça va être 1 à 5 à 6 ou à 7 oiseaux par éolienne et par an, hein, en termes d'impact sur les oiseaux. Donc, si on compare par rapport aux routes, aux autoroutes, c'est 10 à 100 oiseaux par kilomètre et par an. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, on est dans un faible ordre de grandeur. Donc ça c'est pour les oiseaux. Et pour les chauves-souris, c'est la même chose. Hein. Moi j'ai des salariés qui passent leur temps sous les parcs éoliens à chercher les cadavres d'oiseaux et de chauves-souris. Donc moi j'en ai certainement, donc ils passent du temps, j'embauche parfois pour ce thème-là. Donc c'est quelque chose qui est pas facile parce qu'on revient souvent bredouille. Le nombre de chauves-souris que l'on retrouve en faible quantité. Et on a des données bien précises, parce qu'on analyse, on suit des parcs éoliens, donc on est basé sur une réalité. C'est des approches scientifiques. Hein. On fait ensuite des tests pour savoir quel est le taux d'efficacité de ces personnes qui cherchent, pour savoir s'ils sont efficaces. Et aussi quel est le taux de prédation, c'est-à-dire que quand il y a un cadavre, et on sait qu'il va être éventuellement mangé par un renard ou mangé par d'autres. Donc on a toute une approche bien précise. Et donc on a ces données-là. Sur les chauves-souris, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une mortalité sur les chauves-souris parce que c'est une faune volante. Mais là, le problème est résolu parce que les chauves-souris sont des animaux qui ne sortent que l'été, qui ne sortent que la nuit, et qui sortent en certaines conditions de vent. Et donc la solution qui est pratiquée sur tous les parcs éoliens, c'est des systèmes automatiques préventifs qui arrêtent les éoliennes quand on est le début des nuits d'été et qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et quand on regarde ça, hein, donc là on a un retour d'expérience, on divise par 4, 5 ou 6 la mortalité. Donc ce n'est pas 20%, 40% moins, si on divise par 4, 5 ou 6. Donc on est avec une mortalité qui est mineure, qui est marginale, et qui est là aussi à comparer avec les principales causes de mortalité sur chauves-souris, qui vont être l'agriculture intensive, qui vont être différents traitements, qui vont être la destruction des haies, etc. Donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc on va faire attention au choix du site, et on va mettre en œuvre des technologies modernes, et donc ça veut dire qu'on va arrêter l'éolienne pendant 1% du temps, ou 2% du temps, et on va résoudre 80% des problèmes, ou 90% des problèmes de mortalité sur les oiseaux et chauves-souris.
Complément. Peut-être si vous avez des choses à ajouter, vous parliez notamment d'analyse de cycle de vie tout à l'heure. Ça peut être
Alors, oui, enfin, un complément par rapport à, par exemple, à parler de photovoltaïque. Nous, on a une expérience de projet photovoltaïque au sol. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de parler du prix du photovoltaïque en toiture, qui aussi, il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes, mais bon, si quelqu'un pose la question, on y répondra. Donc, sur le photovoltaïque au sol, on a expérimenté des choses là, dans la forêt d'Aquitaine, hein, dans le massif landais, là, du côté de Lacano, et on a installé des parcs là, depuis 2014 avec du photovoltaïque avec tracker. Tracker, c'est les suiveurs de soleil, c'est-à-dire que vous suivez de l'est le matin à l'ouest l'après-midi la course du soleil pour pouvoir un peu augmenter la production. Alors l'intérêt de ce tracker-là, et c'est pour ça que moi, j'ai adopté dès le début ce type de technologie, c'est que vous êtes obligé d'écarter plus les panneaux. Et donc, vous avez toujours, à un moment donné, de la lumière, du soleil qui passe sur le panneau, et donc la végétation peut se faire sur le panneau. Hein. Et donc, c'est un peu différent de ce qui se fait, par exemple, à Cestas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce parc de 300 millions à Cestas. Bon, c'est vrai que c'est ni fait ni à faire au niveau de la biodiversité. Mais avec ces trackers-là, eh bien, il se trouve qu'on recrée des biotopes de l'endumine. Et ça, ça a été montré par des écologues. Et effectivement, il y a la Molinie, qui est un petit peu l'habitat d'un papillon protégé, dans ces landes humides qui s'appellent le Fadet des Lèches, hein, qui peut revenir, alors que quand, sous la forêt de pins, ben, la Molinie a du mal à se développer. Donc elle se développe plutôt en lisière des forêts de pins. Hein, quand on trouve des Molinies, c'est plutôt là. Et on a retrouvé aussi un centre d'autres espèces, comme la Drosera aussi, qui est une espèce protégée, une plante protégée, le crapaud calamite, puisque quand effectivement on arrête, il n'y a plus de pain. Alors on a mis ça sur des terrains communaux, alors déjà aussi, hein, c'est des terrains qui appartiennent à des communes. On prend une toute petite part de la surface de terrain communal de la commune en question, et ça lui rapporte autant que la culture de ces bois sur le reste de ces autres parcelles communales. Et effectivement, on a coupé les arbres. Mais il y a des fois, dans la forêt aquitaine, de prendre un petit peu de bois pour faire des projets photovoltaïques, si on prend soin de les faire de cette manière-là, eh bien, on recrée des biotopes de l'endumide. Et aujourd'hui, les écologues vous disent, il faudrait qu'il y ait 20% de la forêt aquitaine, 200 000 hectares, hein, sur le million d'hectares du massif landais, qui soient des milieux qui soient de nouveau ouverts et qui permettent de retrouver ces biotopes de l'endumide pour des questions de biodiversité. Or, nous, avec les techniques qu'on emploie là, donc à côté de Lacano, si on prend 10 000 hectares, c'est-à-dire 1%, on fait 6 000 MW de photovoltaïque, c'est-à-dire deux fois pratiquement la puissance de la centrale de Brault, avec des techniques qui permettent de protéger l'environnement, de recréer de la biodiversité. Mais il faut accepter de se dire, et c'est souvent difficile à faire comprendre aux gens, en particulier dans les milieux urbains, qu'on puisse couper des arbres. Alors effectivement, couper un arbre en ville, Yann, c'est un peu gênant. Couper un arbre au milieu de la forêt aquitaine pour mettre du photovoltaïque dans ces conditions-là, eh bien, ça peut être plutôt un plus pour la biodiversité. Et si je ne vais pas plus loin qu'un pour cent, c'est parce qu'après, il y a un problème de tuyaux pour évacuer l'électricité, 6000 MW, on pourra déjà difficilement arriver à les mettre, si ce n'est de mettre des lignes électriques partout pour pouvoir évacuer l'électricité.
Oui, juste peut-être un point par rapport à la problématique des métaux rares et en général la problématique de la sophistication de la technologie, non ? On peut dire effectivement que le problème ne se pose pas, mais je pense que c'est important quand même de garder en tête ce débat vers où on veut aller, vers quel type d'énergie renouvelable on veut aller. Parce que là, effectivement, on a tendance à prendre juste un critère des rendements, un critère avec le soleil qui arrive, combien d'électricité on produit, avec les vents qu'il y a, combien on arrive à passer en électricité. Donc, on a tendance à sophistiquer de plus en plus cette technologie et d'optimiser et d'augmenter les rendements. Je pense qu'il y a un risque là-dedans et de travailler juste avec un seul critère. Je pense qu'il faudrait prendre en compte différents critères. Et l'exemple que vous avez cité, c'est mon exemple. Si on prend les éoliennes, deux technologies d'éoliennes, un qui est plutôt mécanique, avec un réducteur, vous expliquez très bien, et un autre avec des semences permanentes, donc basées sur des métaux rares, etc. Si on prend juste
le critère de rendement. Et si on dit non, il faut aller vers la technologie d'éléments permanents parce qu'on va avoir des rendements supérieurs. Et si on oublie d'autres critères, on est en train d'oublier que les métaux rares, il y a, c'est surtout la Chine qui contrôle les métaux rares, donc géostratégiquement, c'est une catastrophe. Et à côté de ça, une technologie basée sur des réducteurs, mais vous traversez la frontière ici, vous allez côté Gualdé, et vous allez voir le nombre de PME qui fabriquent des pièces d'engrenages. On parle des mécaniques. Hein. C'est comme on débat des vitesses hein, pour les voitures. On parle de la même chose. Donc il y a énormément de PME qui construisent ces boîtiers, ces engrenages, toutes ces pièces, et qui donc ils créent un tissu économique local. Voilà, si on laisse tomber ces technologies au nom de rendement, on va laisser tomber tous ces PME pour développer des éléments permanents. Et là, on dépend de la Chine. Donc, prenons plusieurs critères et essayons d'optimiser globalement et pas essayer d'optimiser à chaque fois, on va passer des rendements de 18% à 19%. Non, prenons un ensemble, essayons d'optimiser globalement. Pour les panneaux photovoltaïques, c'est pareil, vous avez très bien dit. Effectivement, la plupart des panneaux photovoltaïques sont basés sur le silicium. Mais on voit de plus en plus apparaître des panneaux sophistiqués, exotiques, on va dire, avec des matériaux très exotiques. Et à chaque fois, on vend en disant, oui, mais regardez, on augmente les rendements de ces panneaux. Oui, très bien, on augmente les rendements. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas garder un panneau qui peut être produit avec très peu de dépendance de tous ces matériaux, qui peut être maintenu facilement, qui peut être recyclable facilement, quitte à garder un rendement qui n'est pas optimal.
Merci pour vos réponses. Je propose d'aborder un troisième thème, puisque les énergies renouvelables posent un autre problème. Il est connu, le vent ne souffle pas tout le temps et le soleil n'est pas là en permanence, la nuit par exemple. Comment peut-on imaginer un monde où toute l'électricité est produite par du renouvelable alors que ces énergies sont réputées non fiables?
Alors, c'est Jean-Luc Grandidier qui va expliquer parce que c'est la technique, mais moi je vais le ramener dans le scénario négawatt. Parce que le scénario négawatt, on a construit, donc l'idée c'est de dire qu'en 2050, on pourrait avoir 100% d'énergie renouvelable en France. Donc déjà, on est dans l'énergie et pas uniquement l'électricité, alors que là, ce dont on parle, c'est plutôt sur l'électricité. Et donc, dans le scénario négawatt, mais aussi dans le travail qu'a fait l'ADEME, la première source de production d'électricité, c'est l'éolien. Le deuxième, c'est le photovoltaïque. Et s'il y a quelque chose qui va être peut-être le résumé de ce que va dire Jean-Yves Grandidier, c'est que nous, on n'emploie jamais le terme intermittent, parce qu'intermittent, c'est ce qu'on a, c'est on-off. Ça, on l'a dans les centrales nucléaires, une centrale nucléaire qui fonctionne, mais il y a un problème et c'est off. Nous, dans l'éolien ou dans le photovoltaïque, c'est des productions qui sont variables et prévisibles. C'est-à-dire qu'on sait, hier, on savait hier, combien de... Il serait un métaux ici, pluvieuse, et puis combien de kilowattheures seraient produits par le photovoltaïque et l'éolien. Et donc ça, c'est les deux éléments essentiels à retenir. Et donc, on a besoin de stockage, mais on n'a pas besoin de stockage toujours. Parce qu'on a cette prévision de production, et puis on a par ailleurs la prévision de consommation. Je n'ai pas tout coupé les arguments.
Non, mais tu peux y aller.
Hein. Si je veux dire.
Oui. Moi, j'ai l'année dernière avec Gilles Luneau, on a publié un livre qui s'appelle Le vent nous portera, où on s'attaque un petit peu à. Enfin, l'idée du livre, c'était de dire, les gens, ils pensent qu'avec l'éolien et le solaire, on ne fera pas plus de 10% de notre mix électrique à l'horizon 2050. Et on a voulu faire ce livre pour pouvoir démontrer que finalement, le vent et le solaire, d'une manière ou d'une autre, ça ferait 80% de notre mix électrique à l'horizon 2050. Ça, c'est des choses que j'avais publiées déjà au Journée des Télés Verts en 2010 à Nantes. Bon, il se trouve que c'est conforté par un scénario de l'ADEME qui montre de 2015 hein, qu'un scénario 100% renouvelable, il est possible en 2050, et effectivement il y aura 80% de la somme d'éoliennes solaires, avec 60% d'éolien, 20% de solaire, et c'est conforté avec le Combitraf Vert 2, qui est la version allemande de ce scénario 100% renouvelable, hein, qui montre aussi qu'il y aura 80% d'éolien plus de solaire, et pareil, 60% d'éolien et 20% de solaire. Bon, moi j'ai plutôt, je suis plutôt sur une partie, sur une idée 50% d'éolien et 30% de solaire, hein, éolien tout confondu, hein, onshore et en mer. Je pense que je me trompe, moitié-moitié, quand on voit comment se faire. Mais voilà, mais peu importe, voilà. Alors effectivement, ça pose le problème de la variabilité, et je pense qu'il faut qu'on arrête le syndrome de Stockholm, hein, de reprendre en fait le langage du bourreau, hein, on est subventionné, non, c'est des prêts garantis. C'est pas des subventions, c'est des prêts garantis. C'est le même terme que quand qu'emploie Jean-Bernard Lévy pour parler du prix auquel il va vendre son nucléaire avec les pommes. Il parle de prix garanti. Bah, nous aussi, on peut parler de prix garanti, en plus, ils sont moins chers que ça. Donc, et pareil pour l'histoire des renouvelables, ils sont variables. Ils sont variables, dans, effectivement, ils fluctuent. Et plus récemment, donc, on a fait une contribution pour la PPE qui montre qu'en flexibilisant de manière très importante, hein, je parle de valeur M, mon entreprise, notre système électrique, eh bien, un scénario 10 watts boosté en énergie renouvelable. Alors, le scénario watt, pour ceux qui savent, c'est comme un scénario d'EDF qui arrête toutes les centrales nucléaires après 40 ans d'âge, donc en 2035, puisque c'est l'horizon des scénarios. Il n'y a plus que 8 gigawatts qui n'ont pas atteint 40 ans et donc qui restent là. Et donc, avec un tel scénario, eh bien, on pourrait satisfaire nos besoins électriques et en prolongeant la durée, et sans prolonger la durée de vie des centrales, parce que si on la prolonge, eh bien, ça nous coûtera beaucoup plus cher. En fait, ça nous coûtera beaucoup plus cher dans la mesure où il va falloir payer ces fameux grands carénages, donc c'est des investissements à faire, et ça va se traduire par une répercussion très importante sur les ménages. Alors comment on flexibilise? Eh bien, là, on a la chance, il y a un alignement de planète là, avec justement cette nécessité de développer les énergies renouvelables variables que sont l'éolien et le solaire. J'insiste là-dessus, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les autres, hein, mais c'est quand on parle de 80%, parlons la règle des 80-20, parlons de ce qui va faire la masse de notre mix électrique demain. Eh bien, il y a deux phénomènes qui permettent d'avoir un alignement de planète. D'une part, c'est la rénovation des logements ou plus généralement le bâtiment à basse consommation. Nous, on est en train de monter un siège social à l'endroit où on est, là, à Bègles. On va réduire fortement les consommations d'hiver pour le chauffage, très très fortement, hein, pratiquement on n'en aura plus, et on a besoin encore, dans un bâtiment tertiaire, où il y a des gens qui sont en permanence dans la journée, où il y a des ordinateurs, d'évacuer la chaleur l'été, et donc on a besoin un peu de rafraîchissement. Les besoins de rafraîchissement sont trois fois plus importants que les besoins de chauffage. Ça tombe bien. Le soleil produit trois fois plus en été qu'en hiver. On redevient en phase avec les besoins. Le soleil est complètement déphasé par rapport à nos besoins de chaleur aujourd'hui. On a besoin, enfin nos besoins thermiques, on a besoin de chaleur en hiver et le soleil n'est pas présent, malheureusement. Et bah, aujourd'hui, on n'a pas besoin encore, tant que le réchauffement climatique n'a pas fait son œuvre, de trop rafraîchir nos maisons et nos bâtiments. Et ben voilà, et donc et ben, on a du solaire qui tourne l'été et on ne peut pas l'utiliser. Donc là, on va pouvoir de plus en plus utiliser directement, coupler le solaire avec les besoins de rafraîchissement estivaux. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Grèce. Les besoins de consommation électrique sont les plus importants en été à 14h ou 15h de l'après-midi, donc au moment où le solaire dort, parce qu'on branche les climatisations, etc. Donc ça, c'est le premier alignement de planète. Et effectivement, on va pouvoir, ce qu'il faudra faire pour minimiser le coût de cette nécessaire flexibilisation, il va falloir stocker l'énergie électrique qu'on produit dans les usages. C'est-à-dire que demain, alors je vous explique, qu'est-ce que c'est stocker l'énergie électrique dans les usages? Eh bien, il y en a un usage qu'on connaît très bien déjà, c'est le chauffe-eau électrique. On le fait depuis longtemps, hein, vous avez les tarifs jour-nuit, et vous produisez votre eau chaude la nuit quand les tarifs d'électricité sont bas. Pourquoi ils sont bas? Parce qu'à un moment donné, EDF avait besoin d'évacuer ces surplus d'énergie nucléaire la nuit, parce qu'il y avait moins de consommation la nuit, les industries, le tertiaire s'arrêtaient, et puis nous aussi, hein, quand on dort, on a une pluie, il n'y a rien, donc la consommation est plus basse, et donc c'était une manière d'écouler leur surplus, Et donc, ce stockage dans les usages, ben demain, en fait, vous n'allez plus déclencher votre chauffe-eau électrique. Bon, d'une part, ce ne sera pas un chauffe-eau électrique à la résistance, ce sera un chauffe-eau électrique thermodynamique, quand même. On va utiliser de l'efficacité énergétique et vous le brancherez à midi. Et c'est le scénario de l'ADEME. La courbe de consommation du scénario ADEME 2050 100% énergie renouvelable, au lieu d'avoir un pic de consommation le soir, en début de soirée, vous avez un pic de consommation entre midi et deux. Voilà, ça fait comme ça. Puis après, ça se calme. Parce qu'on va stocker dans les usages nos consommations. Alors, l'ADEME a principalement utilisé la chaleur, hein, mais pas le froid. Donc, il y a encore en plus des possibilités d'amélioration. Vous pouvez faire ça pareil avec le froid. Votre frigo, demain, eh ben, il aura de la glace pour pouvoir stocker sous forme de chaleur latente l'énergie à midi, on fera au moment où le soleil donnera, et puis toute la nuit derrière, ce sera la glace qui redonnera son énergie pour compenser, ses frigorifiques pour compenser les pertes du frigo, et le lendemain matin, quand le soleil reviendra, pam, vous rebranchez votre frigo. C'est comme le pain de glace dans la glacière au camping. Ben, vous mettez un pain de glace le matin, le lendemain matin, vous voyez, il y a de l'eau, il s'est transformé en eau, mais il a permis de conserver la glacière au frais, et vous jetez l'eau et vous remettez un pain de glace. C'est exactement le même principe. Voilà, on a des possibilités, et ça, c'est dans les ménages, c'est 70% de la consommation d'énergie électrique. C'est des usages qui sont stockables. Donc ça va fortement nous aider. Donc soit on puisse relester nos usages, la machine à laver, machine à laver à vaisselle, au moment où justement il y a la production excédentaire, ça, il faut pouvoir le faire. Donc il faut effectivement avoir des signaux tarifaires qui nous y incitent. Et puis ce stockage dans les usages qui est le moins coûteux, parce que stocker dans un ballon d'eau chaude, ça coûte 30 euros le mégawattheure, alors que stocker dans des batteries d'électricité pour refaire l'électricité, ça coûte 300 euros le mégawattheure. Bon, c'est en train de réduire fortement, hein. Peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt 150 ou 200, mais c'est encore relativement coûteux, hein. Voilà, donc je pense qu'on n'arrivera pas au même coût. Voilà. Donc le stockage dans les usages, c'est la clé. Et donc là, je parle de batterie et je fais la transition avec le troisième alignement de planète, c'est la voiture électrique. Bon, qu'on le veuille ou non, la voiture électrique va se développer. Il y aura peut-être une réduction un peu du nombre de voitures. Il y a 32 millions de véhicules individuels en France, hein, où c'est la mobilité électrique, on va dire, en général, hein. Bon, mais pour la voiture électrique, on voit quand même pas mal comme la batterie être la solution. Il peut y avoir l'hydrogène. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Mais alors, l'avantage de la voiture électrique, hein, par rapport à la voiture thermique, c'est qu'elle consomme 4 fois moins d'électricité, hein. Moi, j'ai des OE au bureau. 15 kWh contre une voiture thermique, vous faites 5 litres au 100 ou 6 litres au 100, c'est 60 kWh, hein. Donc, 4 fois moins. Donc déjà, aussi, c'est aussi comme ça qu'avec Mégawatt, on va pouvoir réduire fortement et diviser par deux nos consommations, parce que on consomme un peu plus d'électricité, mais on consomme beaucoup moins d'énergie au bout du compte. Et là, ça va être 20 millions de zoé. Alors on en aura peut-être un peu moins, dans mon scénario, en 2035, je suis à 15 millions. 20 millions de zoé, vous stockez la moitié de la consommation journalière d'électricité. Donc vous pouvez faire la balance entre la production solaire excédentaire la journée et les besoins de la nuit qui ne seront peut-être pas satisfaits le jour où il manquera de l'éolien, parce que l'éolien, il peut quand même continuer et il tournera une bonne partie des nuits, hein. Mais il y a des fois, ça peut arriver qu'il y ait un manque d'éolien à un moment donné. Alors il pourra y avoir d'autres sources pour pouvoir assurer la consommation. Et moi, j'ai fait dans mon scénario Mégawatt Watt Boosté, on montre que ça passe, quoi. Voilà, donc ces alignements de planètes qui vont nous permettre de le faire à moindre coût. Et vous rechargerez votre voiture électrique la journée et la nuit, le soir. Aujourd'hui, on commence à le voir apparaître. Ce ne sera peut-être pas tous les véhicules individuels et particuliers, mais on va aller vers ce qu'on appelle du véhicule vers le réseau. Véhicule tout gris, disait en anglais. Voilà, V2G. Et ça, vous allez brancher votre véhicule sur le réseau électrique, soit sur votre réseau interne dans la maison, pour pouvoir satisfaire vos besoins en début de soirée, là, quand vous avez des besoins importants, quand vous rentrez chez vous, soit éventuellement même sur le réseau électrique pour aider. Et donc, en fait, le système électrique n'aura même pas à payer ses besoins de stockage pour satisfaire ses besoins. Il paiera un service au consommateur qui sera un prosumeur, quoi, un producteur-consommateur à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et qu'on y arrivera à moindre coût, parce que c'est ça le problème. On peut toujours y arriver, mais il faut que les coûts soient le moindre, il faut que les besoins de stockage sous forme électrique pour refaire l'électricité derrière, il faut les minimiser. Il y en aura, et ils vont baisser, mais il faut les minimiser. Il faut minimiser aussi les besoins de développement des réseaux, parce que ça, c'est aussi ça. Voilà, donc on va faire aussi du stockage sur les sites de production photovoltaïque, en particulier dans le futur. Et puis, il y a aussi des solutions aujourd'hui quand même, quand on regarde quand même, il y a des outils de flexibilité qui sont fantastiques. C'est aujourd'hui comment on fait l'hydrogène. Dans l'industrie, les gens ont besoin d'hydrogène. On consomme 1 million de tonnes d'hydrogène, on produit 1 million de tonnes d'hydrogène en France pour les besoins des industriels. Voilà, c'est dans les outils électroniques, voilà, pour pouvoir avoir un environnement et une atmosphère pure, etc. Bon, je ne connais pas très bien, mais on consomme 1 million de tonnes d'hydrogène. Aujourd'hui, il est fabriqué par le réformage du méthane. L'émission de ces 1 million de tonnes d'hydrogène, c'est 10 millions de tonnes de CO2. Comment ça se fait qu'on ne fait pas l'hydrogène avec nos excédents de production d'énergie renouvelable, qu'on va avoir de plus en plus, 4 000, 5 000 heures par an dans le futur, et qu'on va avoir à pouvoir faire pratiquement à faible coût, et qui éviterait toute émission de CO2. Là, il y a un outil de flexibilité. On rebranche les électrolyseurs pour faire de l'hydrogène propre et sans émission de CO2, au moment où, effectivement, on a des surplus à écouler, et ça peut être un très bon moyen d'écouler. Donc, il y a un tas de possibilités de flexibilité qui peuvent aussi aller fortement, et moi, mon scénario Watt Boosté, eh bien, il montre qu'en France, on peut éliminer aussi tout le chauffage au fioul dans les campagnes et par ici. On a encore quand même le chauffage au fioul, c'est un des quatre moyens de se chauffer les plus importants. On fait 100 TWh de chauffage au fioul. Bah, dans le scénario, on dit on éradique que 80% des besoins de chauffage au fioul. Donc, voilà, et en électrifiant la maison et en flexibilisant les usages de l'électricité dans la maison pour effectivement tirer le meilleur parti des énergies renouvelables variables. Oui, mais...
On a le droit de lancer un peu le débat. Techniquement, je pense que ça marche. Ça marche, c'est ce que vous dites, mais je me pose la question par rapport au processus, au comment vous voulez mettre en place. Les mots-clés que je retiens, c'est scénario, donc une étude prospective. Ensuite, des solutions basées sur le techno. Et ensuite, voilà, on essaye de flexibiliser, surtout au niveau des usages. Mais des usages en utilisant des technos, des stockages de froid, des stockages de chaud, etc., etc. Hydrogène. Mais encore une fois, on est en train de pousser une certaine technologie et on n'explique pas vraiment aux citoyens comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on dit juste, voilà, on a fait un scénario et si on utilise telle technologie, ça va marcher. Donc je pense qu'en plus de ça, il faut aussi qu'on travaille. Il faut qu'on ait un projet pédagogique, il faut qu'on travaille ensemble avec les citoyens, dans le sens où vous savez citer certaines technologies et après, vous mettez déjà le modèle économique en face. L'incitation de prix. C'est ça le seul contact avec les citoyens, une incitation de prix. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on a besoin de lisser notre courbe, on va avoir des modèles économiques basés sur l'incitation de prix. C'est ça le seul contact qu'on va avoir avec les citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans le sens, par exemple, les stockages à la maison, c'est très bien. On connaît déjà ces technologies. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à l'Allemagne, par exemple, quand il lance son projet autour de la flexibilité, le nombre de PME qui se développent depuis 15 ans en Allemagne, mais c'est incroyable. C'est des PME qui travaillent sur des technologies comme ça. Donc oui. Mais on peut aussi travailler, par exemple, sur le comportement de l'usager. Il ne s'agit pas juste de dire, ne vous inquiétez pas, votre frigo va stocker automatiquement, votre chauffe-eau d'eau va... Non, on peut très bien expliquer et dire, changeons de comportement. Si on a le tarif, c'est parce qu'il y a une énergie nucléaire, comme vous savez très bien expliquer. Si demain, on travaille avec l'énergie solaire, chaque territoire pourrait très bien avoir une politique de dire, regardez, sur notre territoire, c'est maintenant qu'on est en train de produire l'énergie solaire. Changez les comportements. Changez les comportements. Et on est conscient, on est tous conscients des gestes, de chaque geste qu'on fait à la maison, au travail.
Il n'y a pas d'antinomie. Hein.
Non.
C'est sûr que ce que je dis, ça nécessitera un changement de paradigme.
Il n'y a pas d'antinomie. Voilà, il faut juste pas oublier.
On va prendre des questions, 3-4 questions, et on répondra de façon groupée.
Un grand Milesh Karanitz à Bartar Tsaïdeli, un grand merci aux intervenants, c'est très complémentaire tout ça. C'est juste apporter un petit plus aux discussions sur la place de la biomasse. Je pense que sur le scénario Négawatt, la biomasse tient une place principale. Ici, en Pays Basque, en raisonnant au-delà de la côte basque, mais en Pays Basque intérieur, la filière du bois déchiqueté, par exemple, est peut-être quelque chose à développer. Et puis, on parle de ces grands champs de parcs éoliens, de ces grands champs de parcs photovoltaïques. Moi, je m'interroge sur le foncier. Ici, il n'y a pas de foncier disponible, et ailleurs aussi, le foncier sera une des questions majeures que nous aurons à gérer au quotidien en termes d'aménagement. Je crois plus aux micro-projets. Ils sont citoyens, peut-être aussi, un peu plus. Et pourquoi ne pas les développer, par exemple en Pays Basque, en imposant systématiquement, lors de tout nouveau projet de construction de bâtiments agricoles, commerciaux, artisanaux, la mise en place de panneaux photovoltaïques. Et parallèlement, de travailler sur l'existant. Il y a là un formidable gisement de toiture. Il y a des toits communaux, il y a des toits agricoles, des hangars agricoles qui sont particulièrement bien exposés, souvent en partie haute, on les voit de loin. Ils ne sont pas beaux parce que c'est du bac acier, c'est de l'amiante. Et si on y mettait des panneaux photovoltaïques, ils seraient peut-être plus beaux, et en plus, ils produiraient des énergies renouvelables. Donc voilà, un petit peu plus un témoignage sur la biomasse d'un côté, et sur les micro-projets que nous pourrions développer sur notre beau territoire, ici, localement.
Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu aussi que vous répondiez sur l'équipement de toiture photovoltaïque par rapport au photovoltaïque au sol. Et puis, j'avais une question par rapport à la voiture. Tout à l'heure, vous nous avez vanté la voiture électrique. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment on fait pour la recharger le jour, puisque normalement, ces voitures circulent plutôt le jour que la nuit, et qu'on va plutôt vers un système de partage de véhicules et l'arrêt des véhicules individuels. Et donc, du coup, je ne vois pas très bien comment on peut à la fois circuler et recharger, sachant que les recharges rapides sont très consommatrices en électricité.
Merci, et on va prendre une troisième question avant de répondre.
Magazine Silence, le dernier numéro du magazine Silence, remet en question l'idée que le bois est une formule écologique de chauffage et, je crois, de construction, à cause de la production de CO2 et de la destruction des besoins de bois et d'arbres pour la biodiversité et pour l'humanité. La deuxième chose, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? La deuxième chose, c'est que j'ai un questionnement sur les éoliennes qui sont aujourd'hui immenses et très groupées, qui impliquent donc une circulation électrique très importante et très centralisée. Est-ce qu'il y a une incitation, une possibilité et un droit de production locale, de petites éoliennes sur de petits territoires, sans centraliser par, je pense, le monopole de l'air.
Merci. Je vais vous laisser répondre. Je propose de commencer par peut-être la question sur la voiture électrique, ainsi que sur les panneaux pour les toitures. On pourra ensuite parler biomasse, puisque c'est revenu deux fois, puis production géolocalisée.
Alors, si, nous aussi, il y a des débats à hein, nous, que ce soit les scénarios disent qu'il y a un chemin qui est possible, on sait qu'entre ces chemins qui sont possibles, le chemin qu'on quantifie, que la réalité sera différent. Nous, je sais que dans le scénario de Négawatt, on est très peu véhicule électrique. Hein. On est véhicule à gaz renouvelable. Hein. Donc déjà, c'est quelque chose qui... On a du véhicule, on n'a pas de véhicule qui fonctionne avec les agro-carburants, très peu. Hein. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc, parce que... l'idée aussi, c'est pas que de raisonner avec le vecteur de transport de l'énergie qu'électricité, parce que on a d'autres vecteurs qui sont le gaz renouvelable en particulier. Donc il y a des critiques qui peuvent être faites sur le véhicule électrique, mais je sais qu'il y a, il y a d'autres solutions. Donc pour redire ce qui a été dit précédemment, et donc c'est un des maîtres mots de toute la transition énergétique, c'est quand même avant tout la sobriété. Hein, quels sont nos besoins? Est-ce qu'on a besoin d'un véhicule individuel électrique ou pas, pour aller d'un point A à un point B. Donc déjà, on voit, en d'autres endroits, lorsqu'il y a des alternatives qui sont proposées à ce transport individuel, ben là, le véhicule individuel est moins nécessaire. Donc après, on est dans le compte des questions technologiques ou techniques. Sur la biomasse, je répondrai très, très rapidement, et puis ça va être une réponse hyper scientifique. Mais sur le bois, que ce soit le bois de chauffage ou le bois de construction, on est sur un cycle court. Hein, on est sur un cycle de de 30 ans, de 40 ans, tandis que lorsqu'on brûle des combustibles fossiles, ils ont été constitués il y a 1 million d'années, on les recrache dans l'atmosphère. On n'est pas du tout dans la même logique. Là, aujourd'hui, on est avec un cycle du CO2 naturel qui est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et donc on va prélever une partie pour éventuellement se chauffer, pour construire. Donc ça peut être écolo si on le brûle de manière efficace, tandis que le combustible fossile, ils ont mis des millions d'années à se constituer, on les recrache dans l'atmosphère, et là c'est évident qu'on rajoute du CO2 dans cette atmosphère.
Bon, sur l'équipement du photovoltaïque en toiture par rapport au photovoltaïque au sol, oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. On dit que le photovoltaïque en toiture est très cher, mais là, les derniers appels d'offres, ils sont sortis, on est à 80 euros, même un peu moins, du mégawatt-heure. Quand vous achetez l'électricité individuellement, c'est 140 euros que vous payez, hein, donc voilà, pour comparer. Et même un industriel ou une grande surface, par exemple, et je dis ça à dessein, elle paye l'électricité 80-90 euros le mégawatt-heure. Donc, si vous autoconsommez cette électricité, eh bien, effectivement, l'électricité est faite sur des toitures ou sur des ombrières de parking, par exemple, hein, dans ces surfaces qui sont déjà anthropisées, eh bien, finalement, elle n'est pas plus chère que celle que vous êtes obligé d'acheter au réseau, parce que vous évitez effectivement cette distribution d'électricité qui a aussi... et donc le développement des réseaux qui est lié et qui a un coût. Donc voilà, donc la toiture, il faut la développer. C'est la priorité, hein. J'aurais peut-être dû le dire au départ, c'est la priorité. Toutes les surfaces anthropisées. Et d'ailleurs, quand on en a fait au sol, on a commencé par des surfaces, des friches industrielles, des friches, des endroits où des industries avaient été installées et elles avaient disparu. Donc on a d'abord des carrières, des gravières, des choses comme ça. On s'est d'abord développé là-dessus. Mais aujourd'hui, effectivement, je vous ai donné l'exemple du PV au sol en Aquitaine. Ça ferait à peu près 30% de notre consommation et électrique de l'ancienne Aquitaine. Le PV en toiture, il faut le faire, il faut le maximiser. Mais même si vous équipez 40 ou 50% des toits en photovoltaïque, vous allez faire 12-15% d'une production d'énergie qui sera un peu plus forte que notre consommation. Consommation qui pourrait se réduire, mais moi je pense que la consommation électrique ne va pas se réduire autant que ce qu'on pense. Elle ne va pas être divisée par deux, parce qu'on a bien vu à l'instant qu'on va électrifier la société, la consommation d'énergie va s'électrifier. Donc si on arrive à 400 TWh, moi c'est mon hypothèse, on consomme 480, ce sera pas mal, mais on pourrait en produire 500, parce que la France est un pays béni des dieux à ce niveau-là, excusez-moi l'expression, hein, mais bon, je trouve qu'elle est parlante par rapport aux autres grands pays européens, puisque on a beaucoup de ressources énergie renouvelable sur notre territoire, on a un grand territoire, et en plus il y a un point que personne ne peut nous prendre, c'est qu'on est, d'un point de vue géostratégique, on est au cœur de la maille électrique européenne, c'est-à-dire qu'on est le pays le plus interconnecté avec nos voisins. Donc quand on aura des surplus d'électricité, eh bien on pourra les évacuer aux quatre coins de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Voilà, la différence que vous regardez au Royaume-Uni, ils ont beaucoup de ressources éoliennes, mais comment vous faites pour rapatrier les excédents d'énergie éolienne qu'ils peuvent produire vers le continent? Et pareil en Allemagne, l'éolien est produit dans le nord, et pareil en Espagne, on va pouvoir produire en Andalousie de l'électricité photovoltaïque très peu chère, mais il faudra ensuite évacuer ça, et là il y a les Pyrénées qui sont un obstacle naturel. Voilà, donc on va produire plus d'électricité et elle sera renouvelable que nos besoins en France, parce qu'il faudra, il faut regarder ça aussi à la dimension européenne, et qu'il faudra qu'on aide nos voisins européens, et notre position centrale fait qu'on produira plus. Et donc, dans ces conditions-là, si on produit 15% de notre électricité avec du solaire au sol, en toiture, pardon, et bien ça veut dire que ça laisse au moins 15 à 20% de cette production solaire, ou 25% même, si à égalité avec l'éolien, qui doit se faire au sol. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on a les espaces? Est-ce qu'on a le foncier? Moi j'ai montré avec cet exemple aquitain, on prend 1% du massif landais, et en plus de ça, on peut faire les choses intelligentes. Je pense que c'est ça la question fondamentale, c'est comment on peut arriver à faire de la collectivité avec des centrales photovoltaïques au sol. Là, c'est la protection de la biodiversité. Dans le midi méditerranéen, du côté de l'Occitanie, le Roussillon, etc., le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrache des vignes.
parce qu'il fait trop chaud, le changement climatique, le raisin, le vin prend trop de degrés. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens de mettre des panneaux solaires au-dessus des vignes qui permettent de, effectivement de pouvoir tempérer la montée en degrés et en température du vin au moment de la fermentation? Est-ce qu'on ne peut pas mettre du photovoltaïque sur des endroits où il y a des friches agricoles dans le sud-est, qui se sont retrouvées être des friches parce qu'il y a des prises agricoles et que les élevages de moutons en particulier ont disparu? Voilà. Et est-ce que ce n'est pas le moyen pour remettre en place des bergers localement et redonner un sens et une pertinence au modèle économique du berger qui a du mal à être pertinent? Il y a la profession ovine, les gars, ils voient qu'ils vont perdre 15 000 exploitations dans les années futures. Comment ils vont faire pour pouvoir réinciter des jeunes à pouvoir s'implanter redévelopper ce métier-là? Peut-être que le photovoltaïque peut être un moyen avec la coactivité, parce que effectivement, le photovoltaïque va payer le service de la tonte, et effectivement, nous, quand on fait le photovoltaïque, là, tu disais tout à l'heure, oui, mais il faut pas voir que la rentabilité. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir le Fadet des Lèches et la Molini, je suis obligé de garder le modelage du terrain. Donc, je peux pas mettre une machine de tonte automatique. Donc, j'emploie des gens qui font de la tonte manuelle. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est le choix pour préserver la biodiversité. Donc il y a des modèles économiques à inventer pour pouvoir effectivement développer, et je pense que c'est ça la transition énergétique. Il ne faut pas rester bloqué sur des schémas, il faut faire preuve de créativité, et puis il faut laisser la place à l'expérimentation, et à ce moment-là je pense qu'on verra qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, il y a beaucoup de terrains qui peuvent être disponibles, et que ça peut servir des enjeux du changement climatique et de la transition énergétique, mais aussi d'autres enjeux agricoles, biodiversité.
Je commence peut-être par rapport à la biomasse. Effectivement, on entend récemment des choses, on relativise l'énergie issue de biomasse. Il y a récemment, en fait, il y a un chercheur belge qui a publié un article et qui a commencé à relativiser, finalement c'est pas si bon. Donc c'est intéressant de voir comment fonctionne le monde de la recherche et après les journalistes. Enfin, le monde de la recherche c'est complexe. Il y a un chercheur belge qui peut publier une chose, mais en même temps il y a 40 000 autres chercheurs qui publient des choses. Donc, après il y a une discussion, ça pose pas de problème. Il y a des discussions et on s'entend ou non. Le problème c'est avec les journalistes. Et oui, parce qu'ils prennent un article là des chercheurs belges, et là ils commencent à écrire le problème, finalement la biomasse c'est pas bon parce que finalement nanana. On fait les jeux avec qui là? Comment ça la biomasse c'est pas bon? Et évidemment qu'on va pas couper tout d'un coup tous les arbres pour chauffer les... Nos grands-parents ils savaient très bien gérer la biomasse, il y avait une gestion des forêts, c'est les bons sens paysans ça. On n'a pas besoin des chercheurs belges pour nous dire comment gérer la biomasse. Donc, il faut faire attention à la lecture qui est faite de certains journalistes des un ou deux articles qui ont été écrits et ces choix de ces articles scientifiques. Il faut faire attention. Par rapport aux tortures, oui, je suis d'accord, mais j'entends aussi ce que vous dites. Il faut quand même faire attention. On dit, on fait des calculs, ouais, il y a tant de mètres carrés de toiture et tout ça. Oui, mais bon. Il faut qu'il soit bien orienté. Il y a les contraintes aussi. C'est pas tout juste mesurer un mètre carré. Là, je profite de faire les parenthèses pub. Donc, INR, vous savez, les stands de INR à l'extérieur. Donc, INR, effectivement, ça fait 4 ans qu'on est ici. Au Pays Basque, on est déjà 450 associés. Et on a développé déjà 15 projets de photovoltaïque, de petits projets. Et effectivement, on travaille avec les collectivités, les municipalités basques, sur cette logique de, on va voir l'équipe municipale, on essaie d'identifier quelles sont les toitures publiques disponibles, et on arrive à un accord avec la mairie, ils nous laissent à 1 euro symbolique de location, et nous on s'occupe de tout. Donc, basiquement, on fait l'étude financière, l'étude technique, et ensuite, on va chercher les citoyens. Et c'est avec l'argent des citoyennes qu'on va faire cet investissement sur le toit public au Pays Basque. On reste sur le périmètre basque. On a d'autres collègues qui travaillent en Aquitaine, en Béarn. On a une multitude d'acteurs qui se positionnent sur cette logique. Donc n'oubliez pas Sauf s'il pleut beaucoup, je ne sais pas si le stand est toujours là. Donc effectivement, on essaye de mobiliser cette épargne qui est peut-être bloquée sur des comptes banquiers, on ne sait même pas où, pour faire des projets concrets au Pays Basque. Et vous savez la liste des 15 projets des toits photovoltaïques qui ont été réalisés les dernières 3 ans. Par rapport au foncier, c'est un débat, mais encore une fois, c'est un débat que moi j'aimerais le ramener sur le terrain. Avec INR, quand on s'est posé ces questions des fonciers, la première chose qu'on a fait, c'est aller rencontrer d'autres acteurs, justement, pour travailler sur ce, et avoir un débat avec eux. Donc on a discuté avec la Blanche Arambara, on a discuté avec les autres acteurs, et donc on a mis certaines règles à respecter, en commun accord avec ces acteurs. Donc avec la Blanche Arambara, par exemple, on s'est dit, on construira jamais un parc photovoltaïque sur des terres agricoles, sur des terres cultivables. Et ça, ce n'est pas un contrat qu'on a signé avec eux, ça, on a écrit noir sur blanc sur nos statuts, sur les statuts de l'entreprise. Donc, on ne peut pas, parce que c'est écrit noir sur blanc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des projets de photovoltaïque au sol. Et effectivement, il y a des friches, il y a des pistes très intéressantes pour valoriser des terres où, de toute façon, on ne peut pas cultiver, de toute façon, on ne peut pas construire. Donc, il y a des pistes intéressantes et qui vont dans ce sens. Et je finirai sur le biomasse et que tu disais, parce que je trouve très important ce que tu disais, dans le sens où, encore une fois, cette technologie push-là, que ça marche, je ne dis pas le contraire. Quand on parle, par exemple, des pompes à chaleur, cet système, ces possibilités qu'on va avoir, de cumuler les surplus d'énergie électrique, en forme de chaleur, donc utiliser. Oui, tout ça, ça marche et c'est intéressant. Mais encore une fois, ici, on va réfléchir peut-être en mode fonctionnement des réseaux futurs. Donc, ça nous intéresse aussi, à un moment donné, avoir ces systèmes de stockage basés sur des technologies de pompe à chaleur, en gros. Mais il ne faut pas oublier le poêle à bois. Le poêle à bois. Il ne faut pas oublier nos systèmes de chauffage, de biomasse, où on peut discuter avec nos collègues agriculteurs qui nous préparent quelques stères de bois. Parce qu'en plus, moi, quand je vois mon poêle à bois, je comprends comment ça marche. C'est, voilà, une pompe à chaleur, je ne comprends pas. C'est pas vrai, je suis ingénieur. S'il y a des profs, des Lestia qui m'écoutent, je fais des cours pour expliquer comment ça marche une pompe à chaleur. Je vous rassure. Mais ce n'est pas juste une question de compréhension. Je comprends comment ça marche un problème, mais si jamais il y a un problème, je suis capable d'aller voir mon copain artisan et de lui dire, regardez, ça c'est cassé, est-ce que tu peux me souder la partie cassée. Donc je peux m'occuper de la maintenance. Et c'est donc une technologie, on est dans une logique, j'utiliserai un mot peut-être un peu barbare, mais les low-tech, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ces notions de low-tech et qu'on arrive à comprendre qu'on peut le maintenir, que ça tombe dans une obsolescence où on ne sait pas quoi faire. Non, c'est quelque chose qu'on peut le toucher, qu'on peut s'occuper et on sait les bois d'où ils viennent et peut-être que ce n'est pas l'optimum, encore une fois, mais ce n'est pas l'optimum. Selon quoi? Selon un critère. Si on prend l'ensemble des critères, je suis sûr qu'il faut aller, en tout cas, il ne faut pas oublier ce que tu disais par rapport à la biomasse, la microbiomasse.
Merci pour cette réponse. On va passer aux questions suivantes, s'il vous plaît.
Bonjour. Ma question sera plus ciblée sur le domaine de l'éolien. Et on sait tous que tous les scénarios aujourd'hui tablent sur un développement massif de l'éolien. Et j'aimerais savoir comment est-ce que, avec des restrictions aéronautiques et armées, on peut faire des projets éoliens. Parce qu'on sait que l'armée est extrêmement puissante et quand une collectivité ou une commune se fait démarcher par exemple à un développeur et veut faire un projet, il y a très souvent, en tout cas en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de place, il y a une restriction de l'armée par exemple. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter le projet et dire bah, c'est pas possible, ou comment est-ce que nous on peut agir, comment est-ce que la commune, la collectivité peut agir pour faire pression sur l'armée pour mettre des restrictions qui sont radar ou restrictions des zones où ils ont l'habitude de s'entraîner depuis 70 ans. Enfin, comment est-ce qu'on peut, sachant qu'il faut, il faut développer les énergies renouvelables, il faut développer l'éolien, c'est évident, on sait ça. Comment...
Merci. On va prendre deux autres questions.
Oui, rapidement, une première question, c'est sur les éoliennes en mer et les poissons. Je vais répondre sur les éoliennes en terre, et que c'est un argument qui revient souvent, notamment sur le projet au large du Havre. Deuxièmement, il est question d'éoliennes, alors plus petites, mais avec des mâts en bois dans la région d'Argentan dans l'Orne, qu'en pensez-vous? Et dernière question, la plus importante, c'est la loi NOTRe a comme conséquence d'augmenter la compétence au niveau de l'intercommunalité, hein, agglo et tout ça. Est-ce que ça a des conséquences sur l'impossibilité de développer des projets au niveau communal après 2020 en fait.
Merci. Et on va en prendre juste une dernière, peut-être, par là-bas. Et je m'excuse, mais ça sera la dernière question du coup. Après, éventuellement, si peut-être il y a du temps pour discuter.
Alors, moi, c'est juste une question qui a été un petit peu développée, mais qui n'a pas beaucoup développé, c'est est-ce qu'on sait faire donc. Est-ce qu'on sait produire suffisamment d'énergie renouvelable avec des technologies, ben, comme vous disiez, de low-tech, on va dire, c'est-à-dire des technologies qui ne nécessitent pas de l'électronique à grande échelle, etc. Est-ce qu'on sait faire de l'énergie renouvelable suffisamment pour un scénario de 100% avec des parcs qui nécessiteraient voilà, plutôt des moyens mécaniques que des gadgets électroniques dont on sait que... On sait pas, on est bon de savoir aussi, d'avoir la technologie pour les recycler à 100%.
Merci. Donc je vais vous demander d'être assez concis dans les réponses, il nous reste exactement 10 minutes de réponse. Partagez-vous la parole.
Je vais essayer d'aller très vite sur l'impact des éoliennes en mer sur les poissons. Si je réponds très rapidement, sur les poissons, on va plutôt créer des récifs artificiels, hein, les fondations des éoliennes pour créer des récifs artificiels qui vont améliorer tout le cycle et qui vont être positifs pour les poissons. Par contre, là où il peut y avoir un impact, c'est au moment des travaux, hein, où les travaux sont des travaux qui sont semi-lourds, donc ces travaux-là peuvent perturber éventuellement la vie aquatique, et surtout les mammifères marins. Et si je rentre encore plus dans le détail, il y a deux types d'éoliens. Il y a l'éolien qui est ancré au fond des mers, puis il y a l'éolien flottant. L'avantage de l'éolien flottant, c'est que c'est construit dans le port et c'est transporté en mer, donc il n'y a pas ces impacts sur la vie marine au niveau des travaux. Je peux répondre juste aussi sur les mâts en bois. Les mâts peuvent être ils sont en acier, la plupart. Il y a quelques-uns qui sont en béton, plus acier. Et je dirais qu'ils peuvent être en bois, c'est aussi un début d'une filière, je ne la connais pas, mais il n'y a pas d'impossibilité technique à ma connaissance.
Oui. Bon, sur l'éolien et les restrictions militaires, bah, c'est l'objet d'une bonne partie de mon livre, hein, où on montre que si jamais l'armée nous avait imposé de ne pas avoir d'intervisibilité entre les éoliennes et les radars, ça vient d'avoir des distances entre les éoliennes qui va culminer à 180 mètres de haut aujourd'hui et les radars, donc la courbure de la Terre faisait qu'on ne pouvait pas mettre des éoliennes à plus près que 70 km par rapport au radar, donc ça veut dire que pratiquement il y avait plus de 90% du territoire national qui était interdit à l'éolien. Bon, parce qu'à un moment donné, il y a eu un projet de décret où c'était ça que voulait mettre l'armée, c'était qu'il n'y ait pas d'intervisibilité. Bon, alors, je ne sais pas si il y a fait pour quelque chose. Aujourd'hui, ça a un peu reculé, mais il y a encore quand même une bonne cinquantaine de pourcents qui sont liés à des contraintes militaires et de radar ou des contraintes d'atterrissage à côté des aéroports. Là, je sais, ben, je vois le maire des courses, Patrick Saint-Vin, avec qui on a un projet dans les Landes. Ben, on ne peut pas, les 9 éoliennes qu'on voulait mettre ensemble dans les Landes, sur sa commune. Et comme on est dans le périmètre d'atterrissage de Cazaux, de la base militaire de Cazaux,
Mais on est loin, hein. On est loin de Cazaux. Eh bien, là, on est dans le cône d'atterrissage, et donc on nous dit, ben non, on ne peut pas relever le cône, parce que c'est un secteur où il y a 2% des décollages et des atterrissages qui se font dans ce secteur où se trouvent les éoliennes. Donc, il faudrait que localement, comme ils le font en Corse, hein, ou peut-être ici, quand il y a des montagnes, dans la partie où il y a la montagne, ils relèvent le plafond du cône d'atterrissage localement. Là, ils ne veulent pas. C'est effectivement un combat qui est compliqué, qui est long et qui ralentit certainement le développement de l'éolien en France. Hein, et c'est vrai que les contraintes, parce que je crois que c'était aussi une des questions, donc on en profite pour y répondre, les contraintes au développement de l'éolien, elles sont spatiales et elles sont celles-là. Et il faut qu'on arrive à, effectivement, à faire reculer. Mais c'est très compliqué dans le climat sécuritaire qu'on a actuellement de pouvoir... donner des arguments, dire attendez, la sécurité aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a des terroristes qui peuvent avec des explosifs rentrer dans les centrales nucléaires, et les gens de Greenpeace nous l'ont montré, et merci aux gens de Greenpeace d'avoir montré que c'était possible. Les centrales nucléaires sont vulnérables, et s'ils viennent mettre ça sur le tuyau d'évacuation de la piscine de refroidissement, et je ne vous dis pas les dégâts, quoi. Et c'est ça notre vulnérabilité. Et c'est pas le risque qu'on n'était pas un avion russe, on a une profondeur de champ quand même. Qui fait que, ou alors il faut qu'il surgisse de derrière les éoliennes, là il faudrait qu'il creuse un trou à travers la terre. C'est n'importe quoi, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas là à avoir. On est dans les rationnels, c'est la sécurité, vous comprenez, quand on va avec des préfets. On ne peut pas, il ne faut pas, parce que la sécurité d'abord, zéro mort, etc. etc. Donc c'est très compliqué, mais c'est un combat qu'on va continuer à mener. Il y a une réponse à laquelle je n'ai pas donné sur les questions précédentes, j'en profite quand même, parce que ce ne serait pas poli. C'est la question de la recharge de la voiture électrique le midi, quand on n'est pas à la maison. C'est ça que j'ai compris. Mais en fait, une voiture, aujourd'hui, si vous regardez le temps de fonctionnement d'une voiture, elle fonctionne une heure par jour. Et en général, ce n'est pas le midi. Le midi, vous êtes au bureau, donc vous n'avez pas trop besoin de midi. Enfin, quand je dis le midi, c'est la journée, hein. Et donc, demain, si vous utilisez votre voiture individuelle, bon, c'est pas mon cas, hein, moi je vais travailler en vélo, si vous utilisez votre voiture individuelle pour aller travailler, vous allez brancher, vous aurez... Nous, dans notre nouveau siège social, on va avoir 80 ou 90 bornes ou 100 bornes de recharge de véhicules électriques. Et les gens, les salariés qui viendront en voiture, il y en a quelques-uns, même si chez nous, il y a pas mal de gens qui pratiquent des modes de mobilité douce pour venir se rendre au travail, mais malgré tout, il y en a qui restent et qui viennent en voiture. Et c'est pas mon problème, je veux dire. Moi, j'essaye de faire de l'écuménisme par l'exemple. Hein. C'est mes salariés, mais je vais pas y regarder par rapport à ça. Mais on va mettre à disposition ces moyens de recharge en interne. Et c'est comme ça que ça se passera. Donc, vous pourrez en avoir chez vous, mais regardez que la plupart du temps, vous n'êtes pas en voiture. Et les bornes de recharge sur l'autoroute, c'est quand vous ferez un grand trajet. Combien vous faites de grands trajets dans l'allée, à part les représentants de commerce Donc, c'est pas un problème. Oui, vous allez consommer. C'est de la puissance. Hein, c'est pas de l'énergie qu'on consomme. C'est de la puissance. Vous avez un appel de puissance qui est très important, mais qui est pendant un temps de... comme vous chargez en 5 ou 10 minutes, vous avez 10 ou 15 fois plus de puissance, mais pendant beaucoup moins de temps. Donc, c'est une question plutôt de réseau que d'énergie. Et je vous dis, c'est pas... je pense qu'il faut effectivement équiper... Les autoroutes de moyens de recharge rapide et ça fera partie des infrastructures à mettre en place. Et puis la dernière question à laquelle j'aurais répondre, c'est attendez que je vois la l'hôtel.
Non mais moi aussi j'aimerais un jour commencer mes réponses en disant comment j'explique très bien dans mon livre. Non, mais un jour, je vais le faire.
Mais il faut le faire. C'est un exercice très intéressant. Ah ouais, c'est passionnant. Surtout avec quelqu'un de sympathique.
En collaboration.
En collaboration, ouais.
Juste rapidement, par rapport à la question éolienne, parce que tu soulèves, parce que c'est effectivement c'est un problème réel. Hein. Ici, nos copains landais, ils sont vécus, et ils le vivent tous les jours. Au Pays Basque aussi, hein. Au Pays Basque aussi, il y a des projets éoliennes. Alors c'est différent, vous, c'est l'armée de l'air, nous, c'est l'armée des terres. Ben oui, parce qu'il y a des hélicoptères à Dax, soi-disant, le Pays Basque, c'est un endroit magnifique pour l'entraînement, donc ça poserait des problèmes des éoliennes. Bon. J'arrive pas à comprendre s'ils gèrent pas, où sont les éoliennes, et s'ils vont arriver à manœuvrer dans d'autres pays. Mais bon, ça c'est effectivement, c'est, concrètement, c'est l'armée des terres, quand il dit non, ben les préfets, ils disent non. Ouais, donc c'est effectivement.
On est plus con que les autres.
Voilà. Mais on va y arriver avec INR. on va y arriver à faire des projets. Et donc, si tu es intéressé à participer dans notre groupe de travail au sein de l'INR, tu es bienvenu. Comme ça, tu vas voir comment ça se passe d'un projet éolien de A à Z. C'est passionnant. Donc, vraiment, tu es bienvenu dans le groupe de travail éolien. Et finir peut-être avec une question. Alors, rapidement, pour les low-tech, non, si on ne change pas notre façon de consommer, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut changer un ensemble de... Voilà, comment on consomme, comment on vit. C'est pas avec un scénario de dire, voilà, la consommation actuelle est telle, on va arriver. Non, il y a beaucoup de choses. Donc, si tu veux, on va ensemble après à la messe en bas sur la consommation et comment... Donc, je pense qu'il y a des choses à travailler dans ce sens. Et peut-être finir par rapport à un lien avec toutes les questions de gouvernance, parce que finalement, c'est une question de gouvernance. Et les rôles qu'il y a un territoire. Moi, je suis content de voir, par exemple, ici au Pays Basque, maintenant, il y a l'agglo qui s'outille pour travailler sur les questions énergétiques. Donc, ça veut dire qu'à court terme, on va pouvoir réaliser des projets en utilisant un périmètre concret qui est le Pays Basque, ici, par exemple. Et d'autres, ils pourront faire dans ce sens. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je pense que c'est important de se poser ces questions. Et quel rôle ont des collectivités, quelles compétences ils ont des collectivités, et sur quel fonctionnement on veut travailler. Aujourd'hui, on fonctionne clairement le gouvernement central qui lance des appels d'offres, et les collectivités, c'est juste des outils pour répondre à ces appels d'offres. Et donc, est-ce qu'on veut rester dans ces fonctionnements où les priorités sont définies je ne sais pas où, et ensuite il y a un ensemble d'appels d'offres. Donc effectivement, on peut faire des projets intéressants, mais on est toujours derrière les priorités qui sont définies par je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Est-ce que ça correspond à notre territoire? Non. Ah si, ça correspond. Donc on répond à l'appel d'offres. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un autre type de fonctionnement où on regarde dans chaque territoire quelles sont les ressources, quelles sont les façons de travailler, et de la même façon que peut-être côté Languedoc, qui travaillons peut-être plus sur les solaires avec des trackers, etc. Peut-être qu'au Pays Basque, on fera des petits projets, des biomasse ou des hydroélectricité. Donc la question se pose par rapport à cette gouvernance et quelles compétences y sont les collectivités.
Je vais finir sur la loi même, parce que je pensais que tu allais en parler dans la mesure où la question de Martine Billard. Qui est aussi une question de gouvernance. Hein. La loi NOTRe, effectivement, c'est celle qui donne la compétence énergie aux intercommunalités. Je ne pense pas que ce soit un problème vis-à-vis des communes. Hein. Les communes font partie de l'intercommunalité, que ce soit l'occasion pour les communes d'investir dans les projets intercommunaux, dans les projets des communes de l'intercommunalité, c'est bien. Ça peut être aussi l'occasion, du coup, de créer des SEM énergie au niveau des intercommunautés, on en voit de plus en plus, hein. Et donc à ce moment-là, rien n'empêche qu'un des projets ou des projets se trouvent sur les communes de l'intercommunauté. Je sais pas, là c'est peut-être quelqu'un comme Patrick Samal, le maire des Sources, qui serait mieux à même de répondre à ce genre de questions, mais t'interviens cet après-midi.